Voilà, chers amis, je vais commencer par vous poser une question. Qui est baptisé? Allez regretter d'avoir levé la main. Deuxième question. Qui est saint? Pourquoi? Vous allez voir pourquoi je vous pose ces deux questions. C'est que Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, c'est l'un de mes héros. Géant de la sainteté, quel don de l'Esprit Saint, quel don de l'Esprit Saint, ce grand pape, tertio millennio adveniente, je ne sais plus exactement le latin, hein, le document au basculement du deuxième au troisième millénaire. Il dit, il faut placer la pastorale dans la perspective de la sainteté. C'est ça la vraie pastorale. Vous invitez tout faire pour devenir des saints. C'est pas de faire des programmes dans les bureaux, même s'il faut peut-être faire quelques réunions, mais c'est pas ça qui va réformer l'Église. C'est la sainteté. Toujours dans ce même document du pape Jean-Paul II, il dit, si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son esprit, ce serait un contresens de se contenter d'une vie médiocre, vécu sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Écoutez bien cette phrase. Demander à un catéchumène, veux-tu recevoir le baptême? Signifie lui demander en même temps, veux-tu devenir un saint? Cela veut dire mettre sur la route le caractère radical du discours sur la montagne, Jésus, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Alors, à la sortie d'une des sessions du Concile Vatican II, où on avait parlé de cet appel universel à la sainteté, hein, pour tous les fidèles, pas simplement les prêtres, les religieux, les moines, etc. Hein, tous, hein, je vous rappelle, frères et sœurs, les laïcs ne sont pas des chrétiens au rabais. Tous, nous sommes appelés à être des saints. Et donc, c'était les débats du Concile, hein, et puis ils avaient proposé ces textes, hein, de l'appel pour tous, rappeler cet appel du Christ pour tous. Et un journaliste avait entendu parler de ça, il s'approche d'un cardinal et dit, Éminence, qu'est-ce qu'un saint? Un saint, un saint, dit le cardinal, bah, c'est un chrétien normal. Alors qu'est-ce que c'est que cette sainteté? Parce qu'on a vu hein, dans le parcours du thème de l'unité que l'être humain, merveille de la création de Dieu, chef-d'œuvre, image, ressemblance, a été blessé, abîmé, a perdu son unité intérieure, son harmonie par le drame du péché. Et donc vous comprenez bien que la sainteté à laquelle nous sommes appelés, qui est notre identité, être saint comme Dieu est saint parce qu'on est à son image, eh bien ça va refaire l'unité complète. Plus on est saint, plus on est unifié, plus on est pécheur, plus on est morcelé. Donc c'est notre vie chrétienne prise très très au sérieux qui va nous amener l'unité que nous cherchons. Cette unité intérieure. Unité parce que un avec le Christ, un avec Dieu, unité en nous-mêmes et unité avec le prochain. Alors qu'est-ce que la sainteté? J'ai la grâce de faire le catéchisme aux enfants dans les aumôneries et les écoles. C'est une merveille, hein, les enfants, quel cadeau. Et puis je parlais de la sainteté, etc. J'étais avec les CM2. Et puis il y a un petit Léo qui lève la main. Et toi, est-ce que t'es saint, Père Jérôme? Pas le temps de bouger une lèvre. La maîtresse qui dit, bah non, tu vois bien, hein. Bah, laissez-moi répondre, quand même. Bon. Petite humiliation. Merci, madame la maîtresse. Elle a raison, hein. J'y suis pas encore. Bon. C'est quoi la sainteté? C'est pas des choses extraordinaires. C'est pas des choses extraordinaires. Oui, certains saints font des choses extraordinaires. Mais la sainteté, c'est pas ça. Benoît XVI. La sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires. Mais à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées, ses comportements. La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. C'est être conforme à Jésus, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Car ceux que d'avance il avait discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Reproduire l'image de son Fils. La sainteté, c'est d'être d'autres petits Jésus. C'est aussi simple que ça. Se laisser transformer par le Christ, s'unir au Christ, par les sacrements, par la prière. C'est ça, la sainteté. Et le reste va découler. Hein, le mettre dans notre vie de tous les jours, la vie conjugale, la vie familiale, la vie du travail. Mais il faut mettre les choses dans l'ordre. L'union au Christ. Plus on sera uni au Christ, plus on sera saint. Donc, c'est pas des choses extraordinaires. Hein. C'est dans le quotidien, dans les petits rien de tous les jours que l'on devient saint, sans entreprise éclatante que tout le monde voit. Parce que là, il peut y avoir l'orgueil qui arrive. Hein. Des petites choses, disait Mère Teresa, avec beaucoup d'amour. C'est la quantité d'amour dans ce qu'on fait. Vous faites la cuisine, vous faites le ménage, vous rangez une chambre, vous allez bosser, faire une réunion. Beaucoup d'amour. Petite chose, beaucoup d'amour. Et donc la sainteté, c'est aussi de s'accepter tel que nous sommes. De ne pas vouloir être un autre saint que Dieu veut que nous soyons. Cette sainteté est unique car nous sommes uniques. Il ne faut pas se comparer. Ça, c'est le drame de tous, hein. On se compare. Les pères du désert disaient, si tu compares aux autres, t'es déjà tombé de la contemplation. T'es plus avec le bon Dieu. Sa propre sainteté, on est unique. Il va y avoir une lumière au ciel qui sera unique, ça sera la mienne. Et chacun d'entre vous aussi, il y aura une lumière unique que les autres saints n'auront pas. Donc faut pas y chercher à être un autre saint que ce que le Seigneur veut que nous soyons. Témoignage perso. J'ai eu cette grâce de la conversion, si vous étiez là au témoignage. Ça a changé complètement ma vie. Je suis tombé amoureux du Seigneur, je lui ai donné ma vie. Et je voulais être franciscain. J'ai été séduit par la figure de saint François et aussi par la figure de saint Padre Pio, un géant aussi de la sainteté. Et je voulais être comme lui. Ouais, petite ambition, hein. Et donc, je suis rentré dans une communauté de franciscains. Les franciscains dans le Bronx, vous avez peut-être entendu parler de cette communauté là, à New York. Donc, j'étais moine pendant quelques temps et j'avais demandé, et ils avaient accepté, reçu le nom de frère Marie Pio. Hein, j'avais la bille, j'avais les cheveux rasés, j'avais les grosses barbes. J'étais dans le Bronx et je m'occupais des pauvres. Et au bout de quelques mois, quelques années, j'ai vu que j'avais pas les stigmates. Et j'ai dit, bon, bah, peut-être que c'est pas ça, en fait. Hein. Peut-être pas, il faut pas que vous voyez de Padre Pio. Saint-moi. Le roi Baudouin, le roi de Belgique, qui est mort en odeur de sainteté. Je ne sais même pas s'il n'a pas été béatifié ou vénérable, je ne sais plus. « Seigneur, dit-il, je fais souvent des rêves qui sont totalement à côté de la plaque. Je pense trop souvent à la mission que tu m'as confiée et pour laquelle je suis né. J'oublie trop souvent que j'existe avant toute autre chose pour toi, pour t'adorer, pour te contempler, pour aimer tous ceux que tu mets sur ma route, pour les aimer comme toi tu les aimes avec ton amour. Jésus, s'il te plaît, aide-moi à garder le cap, toujours et à chaque instant, sur toi. Ô mon Dieu, pardonne à l'insecte que je suis de vouloir être un beau cheval. Rends-moi humble, Seigneur Tout-Puissant, et heureux d'avoir été créé petit. Parce que chacun a sa vocation, c'est petit, c'est très bien, c'est saint. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Faisons donc la volonté de Dieu dans notre vie, sainteté dans le quotidien. Union au Christ, pas de choses extraordinaires, pas d'élan mystique, si vous en avez tant mieux, allez voir un perspi quand même, mais quotidien, les choses du concret, les pieds sur terre, la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre dans ma vie quotidienne. C'est là que le Seigneur nous attend. Hein. Vous savez, si vous allez faire l'adoration avec des extases, mais que vous occupez pas de votre famille derrière, vous avez une prière de damné. Dieu n'écoute pas votre prière. Il vous attend pas là. Vous n'êtes pas à l'endroit où il vous attend. Il vous attend auprès de votre famille. C'est là que vous devez déployer votre service. Pas pour dire de ne pas aller à la messe et pas aller à l'adoration. Hein. Il faut le faire, mais pas contre le devoir d'État. Le devoir d'État, le Seigneur nous attend là. Et donc, si je suis là, je suis avec le Seigneur. Si je suis ailleurs, même si ça paraît très sain sur le papier, en fait, je ne suis pas avec le bon Dieu. Alors, l'unité va se refaire petit à petit. Patience, chers amis, hein, la vie humaine, c'est un temps long. On est dans la culture de l'immédiat, hein. Fabrice Adjadj, que j'ai eu la joie d'avoir comme prof de philo au séminaire, disait qu'on est dans une push button society. Une société, on appuie sur un bouton. Amazon. Je clique. Le lendemain, j'ai mon livre dans ma boîte aux lettres. Et on s'habitue un peu à cet instantané. Je veux, je suis compulsif, j'ai un désir, j'appuie, je veux ça tout de suite, je veux que ça vienne. Et ben, ça se traduit aussi inconsciemment, peut-être, dans la vie spirituelle. J'ai fait une heure d'ado, faut que je sois saint, quoi. Ben non, hein. J'espère que je vais pas vous déprimer, mais un grand moine de l'abbaye de Céphon, le père Jérôme, c'est pas moi, hein, a dit « La propédeutique de la vie d'oraison, c'est 5000 heures. » Oh purée. Oh purée. La propé, hein, c'est l'intro, quoi. Oh purée. Non, partez pas, partez pas. Hein, donc, faut pas penser à être saint en une heure d'ado, hein. Ou en un an, un peu, avec... voilà, non. Long terme, temps long. Et donc, cette unité va se faire principalement par le sacrement, la prière. Et je vais m'arrêter un peu plus sur l'Eucharistie, évidemment, hein, qui est le sacrement des sacrements. Vous savez qu'il n'est pas au même niveau que les autres. Hein. Il y a la couronne des sacrements, on dit, hein, et puis il y a les six, et le joyau au-dessus, le Saint-Sacrement, l'Eucharistie. Tous les autres sacrements sont orientés vers l'Eucharistie. Si je suis baptisé, c'est pour, après, aller manger le corps du Christ. Si j'ai la confession, c'est pour retrouver l'état de grâce et de nouveau aller pouvoir manger le corps du Christ. Si je reçois le sacrement de mariage, c'est pour sanctifier l'affectivité, la relation conjugale, la sexualité, pour qu'elle soit sainte et que je puisse aller communier. Si je reçois le viatique au moment de la mort, le dernier, c'est pour l'Eucharistie. Le prêtre, c'est pour l'Eucharistie. J'existe pour l'Eucharistie. Vous voyez, tout est pour l'Eucharistie. Tous les autres sacrements sont pour l'Eucharistie. C'est le joyau de la couronne. Il est au-dessus des autres, parce que les autres donnent la grâce, alors que là, avec l'Eucharistie, on a l'auteur de la grâce lui-même qui est là. Le Verbe s'est fait chair, dit le catéchisme de l'Église catholique au 460, pour nous rendre participants de la nature divine. Voilà le projet de Dieu pour nous, participer de sa propre nature divine. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait chair, le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe, communion, l'Eucharistie, en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Car le Fils de Dieu, dit saint Athanase, s'est fait homme pour nous faire Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, le Fils unique de Dieu, voulant nous que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, Aquin, afin que lui, fait homme, fît les hommes Dieu. Voilà notre vocation, frères et sœurs. Dieu avec un D minuscule, quand même. Hein, on reste une créature. Mais on devient Dieu par participation à sa vie divine. Quelle élévation! Et vous avez bien compris, plus on sera eucharistique, plus on aura un amour du Seigneur eucharistique dans la communion, la messe, mais aussi en approfondissant tout ce mystère de la messe par l'adoration du Saint-Sacrement, le temps de prière prolongé pour tous. Hein, la prière, c'est pour tous. Prière longue, une heure, au moins une heure par semaine, les amis. Hein. Et voire même tous les jours, un petit temps d'oraison, de silence, de prière, de cœur à cœur avec le Seigneur. Ça, ça va faire déployer la vie des sacrements. Sinon, on va rester un peu à la surface. Ça ne va pas prendre racine très profond en nous, ça ne va pas nous transformer autant que le Seigneur le voudrait. Hein, vous savez que l'Eucharistie, pour les pères de l'Église, et donc c'est vrai, c'est la tradition de l'Église, l'Eucharistie, c'est la continuation, l'extension de l'incarnation. Jésus est toujours incarné sur terre. L'incarnation, le fait que Dieu se fasse homme et qu'il marche sur la terre, c'est pas fini. C'est là, toujours avec le Saint-Sacrement. Mode mystérieux, évidemment. Mais Jésus est toujours là, on peut toujours aller le voir. Il est toujours sur la terre, dans toutes les églises du monde, dans tous les tabernacles. L'Eucharistie, c'est la continuation de l'incarnation. Et donc le Père Aymar rappelle que c'est par notre sainteté, par la sainteté seule, que Jésus peut régner en maître dans une âme. C'est là le règne de Dieu qu'il est venu établir sur la terre. Il est venu rendre les hommes que nous étions, de terrestres, charnels, vicieux, il est venu nous rendre spirituels, purs, chastes, bons, vertueux. En un mot, les recréer à son image et à sa ressemblance et les rendre des dignes enfants de Dieu, leur Père. Alors pour ramener tous ces hommes à la vertu, à la sainteté de Dieu, Jésus est venu à annoncer son évangile et à donner aux hommes l'exemple de toutes les vertus. Mais, dit saint Pierre Jemmaire, ça n'a pas été suffisant. S'il n'y avait pas eu l'Eucharistie, on n'aurait pas pu imiter Jésus. Il serait dans le passé. Cela n'a pas suffi, dit Aymar. Le mal était trop invétéré, le vice trop enraciné. Il fallait la divine Eucharistie pour transformer l'homme en un homme nouveau, en un petit Jésus-Christ. Quelle merveille que ce trésor donné par Jésus de sa présence réelle, de l'Eucharistie. Et voilà donc, continue Aymar, hein, Saint-Pierre-Jules Aymar, c'est mon grand saint patron de la petite communauté, hein, c'est le fondateur des Pères du Saint-Sacrement, un amoureux, un apôtre de l'Eucharistie, c'est pour moi le plus grand, hein, pour parler, pour expliquer, pour montrer la beauté, la merveille du sacrement de l'Eucharistie. Voilà l'étonnant prodige de l'Eucharistie, dit-il, elle christianise l'homme en naturalisant en lui les plus nobles et les plus sublimes vertus, ça va devenir naturel. Les plus hautes vertus, grâce à Jésus, grâce à l'Eucharistie, ça va devenir naturel, parce qu'on va être transformé. Dans l'Eucharistie, le chrétien apprend à s'humilier à la vue des abaissements si profonds de Jésus, de ses anéantissements eucharistiques. En mangeant le Dieu de charité, il devient lui-même charitable, bon, généreux, martyr pour ses frères. Donc vous voyez la capacité de l'Eucharistie à nous transformer. Mais ce n'est pas automatique, frères et sœurs. Et malheureusement, si on s'approche alors qu'on n'est pas bien préparé, il ne va pas y avoir beaucoup de fruits. Voire même, il y a des moments où il ne faut pas s'approcher. Il faut d'abord aller se confesser. Si on a perdu l'état de grâce, péché grave, péché mortel, dit la tradition, on est mort spirituellement. Et c'est le drame. Hein ? Et si on est mort spirituellement et qu'on meurt physiquement, vous savez ce qui se passe ? Pas terrible, hein ? Bye bye le ciel. On prêche plus ça, l'état de grâce. Et c'est un drame. Alors Jésus veut pas ça, évidemment, il fera tout pour qu'on accueille sa miséricorde, son pardon est infini, hein. Mais il faut aller chercher. Vous voyez, dans mon témoignage, pendant toutes ces années où j'ai fait n'importe quoi, j'allais quand même communier de temps en temps. Et il fallait pas. J'ai blessé le cœur de Jésus. C'est un péché grave de communier alors qu'on n'est pas purifié, hein. Mais seulement les péchés graves. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Comme la nourriture et les remèdes corporels ne servent de rien à ceux qui sont morts, et que l'on tiendrait pour insensé celui qui donnerait de la nourriture ou des remèdes à un homme mort, de même ce pain sacré servirait pour conserver ou augmenter la grâce à ceux qui sont faibles, c'est-à-dire à ceux qui sont sous les coups de la tentation, de la faiblesse, des péchés véniels, ou qui après être ressuscités de la mort du péché mortel sont encore faibles et sans force. Mais pour ceux qui sont sous le coup du péché mortel, donc morts, loin de leur être utile, il leur est plutôt nuisible. Ce pain sacré pris dans cet état, loin d'être considéré comme un remède, doit être plutôt considéré comme un malheur. Voilà la parole des saints. Tous les saints sont d'accord avec ça. Hein. J'ai pris saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand théologien. Saint Paul, celui qui ne discerne pas le corps du Christ, mange et boit sa propre. Ça, c'est fort, hein? Alors même ce péché est pardonnable, hein, évidemment, la miséricorde est infinie. Mais rappelons-nous que c'est sérieux la communion, la sainte communion. Il faut se confesser régulièrement, et puis si jamais il y a vraiment un jour un péché grave, ben on va se confesser d'abord, avant d'aller communier. Alors l'Eucharistie, ça va être le modèle de notre sainteté. En s'approchant régulièrement de Jésus dans l'Eucharistie, la messe évidemment, et puis aussi un peu l'adoration, la prière personnelle, le silence devant le tabernacle ou devant le Saint-Sacrement exposé, Eh bien, petit à petit, on va vouloir imiter ce Jésus qui est là, avec toutes ses vertus. Toutes les vertus viennent de Dieu, dit le Père Aymar, toujours lui, et c'est de l'Eucharistie surtout que Jésus se plaît à les faire découler dans nos âmes, comme des flots de grâce. Donc c'est le canal privilégié. Bien sûr qu'il y a d'autres moyens. Le Seigneur utilise tout un tas de choses pour nous rejoindre, pour nous sanctifier, mais le canal principal, prioritaire, central, absolu de notre vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. Saint Jean-Paul II, il a une parole extraordinaire au prêtre. Il dit « Le prêtre vaut ce que vaut sa vie eucharistique. » C'est encore plus vrai pour nous. Nous sommes les hommes de l'Eucharistie. Moi, j'existe pour ça. C'est ma raison d'être. C'est le but pour lequel Dieu m'a créé. Pour l'Eucharistie, c'est ma raison d'être. J'existe pour lui, pour Jésus, dans l'Eucharistie. Et tout le reste, toute la prédication, l'enseignement, les sacrements, c'est pour vous amener à l'Eucharistie que vous puissiez devenir des saints, transformés par la puissance de l'Eucharistie. Donc c'est par l'Eucharistie, et seulement par l'Eucharistie, avec tout le reste qui va déborder, la prière du chapelet, toute notre vie spirituelle, la vie de la grâce qui va grandir. Vous savez que Saint Maximilien Kolbe disait qu'une seule communion, peut nous faire saints. Parce qu'on a la sainteté parfaite, là. Pourquoi on ne l'est pas, alors? C'est qu'en nous, il y a des obstacles. Même si ce n'est pas, je l'espère, des péchés mortels, il y a des petits attachements, des refus de conversion, des refus de pardon, des tiédeurs, vous voyez, tout ça, on a un petit boulot à faire, de préparer, d'élaguer, de débroussailler. On a un petit boulot à faire pour que la grâce du sacrement puisse se déployer pleinement. Donc ces exemples de Jésus, il faut les voir, y être attentif, les étudier et s'en pénétrer. Et où puiser un plus grand amour de l'humilité qu'au pied de Jésus dans l'hostie. L'humilité de Jésus. Dieu infini, majestueux, glorieux, il se fait humble, tout petit, à la merci des hommes. Où trouver de plus beaux exemples de silence? C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, Jésus, dans le Saint-Sacrement, en tout cas extérieurement. Mais quand on le découvre vraiment présent, quand on va à l'adoration, je peux vous dire qu'il commence à vous faire comprendre des choses à l'intérieur. Des exemples de silence, donc de patience, de douceur. Eh bien, au très Saint-Sacrement, notre Seigneur ne pratique plus extérieurement toutes ses vertus. Sa sagesse ne proclame plus les sentences divines. Vous voyez, il y a 2000 ans, il prêchait. Là, c'est plus extérieur, on n'entend plus, mais ça va le faire à l'intérieur. Il y a toujours cette vertu, mais elle est cachée, elle est intérieure. Alors, je vais prendre trois grandes vertus qu'on va méditer ensemble. Pourquoi ? Il y en a plein d'autres, j'en ai pris trois. À votre avis, lesquelles ? Si vous faites le lien avec mon enseignement. Pauvreté, bravo. Chasteté. Obéissance. On va méditer un peu ça. La pauvreté de Jésus, le modèle de la pauvreté au Saint-Sacrement. La chasteté de Jésus au Saint-Sacrement. La puissance de purification, de nous rendre purs, chastes par l'Eucharistie. Et l'obéissance de Jésus dans l'Eucharistie. Et pour nous, quoi. Comment devenir comme lui, pauvre, chaste, obéissant? Vous n'êtes pas moine, vous avez compris que ces trois choses sont les trois vœux des moines. Vous avez compris, en fait? Les moines, ils font des vœux parce qu'ils ont compris la théologie, la vérité, qu'on a un désordre, le PSP, PlayStation Portable, il y a le désordre, même les moines, ils l'ont. Et eux, ils vont prendre le moyen radical, les vœux. Pauvreté totale, pas de possession, chasteté totale et obéissance. Mais vous êtes appelés à faire ça aussi, pas en termes de vœux, mais en termes d'esprit. D'esprit, les mariés ne doivent pas être luxurieux. On ne doit pas rechercher le pognon, l'enrichissement, le confort à outrance. On doit avoir un certain détachement, etc. On doit obéir aussi, apprendre à obéir, être docile, notamment l'enseignement de l'Église. Vous voyez, on doit vivre de l'esprit des vœux. Même si vous ne prononcez pas le vœu, il y a un esprit à avoir de sainteté. Alors, la pauvreté d'abord. Je cite encore Saint-Pierre Julien Aymar, je le cite beaucoup, parce qu'il est merveilleux. Il y a 14 000 pages d'œuvres complètes. 14 000. J'en ai déjà lu 3 ou 4 000. mais ça se lit pas comme un roman, quoi. Vous voyez, ça se médite devant Saint-Sacrement. Donc ça prend du temps. Alors voilà, il réfléchit sur la pauvreté de Jésus qui va décliner dans sa naissance, etc. Et puis après, en finale, dans le Saint-Sacrement. L'esprit, la vertu, la vie de Jésus est un esprit, une vertu de pauvreté. Pauvreté absolue, perpétuelle. J'ai médité cette pauvreté. J'ai vu le Verbe incarné l'épousant à Bethléem. Et commençant par tout ce que la pauvreté a de plus humiliant, habitation avec des animaux. Les tables, la crèche, la paille, le froid, la nuit. Hors de toute habitation, de tout secours. Quelle pauvreté! Mais pour être plus pauvre encore, le Verbe incarné naît pendant un voyage, rejeté de tous à cause de la pauvreté de ses parents. Puis il va passer sa première enfance en Égypte, à l'étranger. Là, ses parents seront encore plus pauvres, plus délaissés. Enfin, il revient à Nazareth. Il reste 30 ans dans l'exercice de la pauvreté. En tout ce qu'il faisait, il cherchait, pour lui, c'était toujours à avoir moins et le plus pauvre. Dans sa vie évangélique, Jésus garde son même vêtement d'ouvrier, ses mêmes habitudes de vie, priant à genoux par terre, vivant de pain d'orge, souvent recevant l'aumône, l'invitation hospitalière que la loi avait inspirée, voyageant comme les pauvres, ayant faim et en soif. Sa pauvreté le rendait méprisable aux grands et aux scribes, ne voulant que des disciples pauvres comme lui, leur ordonnant de n'avoir ni de tunique, ni de provisions, ni d'argent, ni un bâton de défense, rien. Et enfin, mourant, abandonné, dépouillé même de ses vêtements, enterré dans un sépulcre de charité. Mais c'est pas fini, parce que même il y a la pauvreté qui continue au Saint-Sacrement. Enfin, au Saint-Sacrement, portant l'état de pauvreté jusqu'à voiler la gloire de sa divinité, toute sa sainte humanité, à se dépouiller de toute liberté extérieure, de toute défense. On peut l'attaquer, Jésus. On peut pas se défendre. On peut lui faire du mal. Il se défend pas. Donc, privé de tout mouvement, de toute défense, de toute propriété, de tout acte extérieur, il est là comme dans les entrailles de sa sainte mère, enveloppé des saintes espèces, à la merci et à la charité des hommes pour lui donner la matière de son créateur, les objets nécessaires au culte. Vous voyez, il dépend de tout, il a besoin de nous. Pour qu'il y ait la messe, il a besoin de nous, qu'on lui donne la matière, le pain. Une dépendance, une pauvreté totale de Jésus, jusque dans son sacrement d'amour. Alors on doit limiter un peu, hein. Alors bien sûr, vous n'êtes pas appelés à vivre des pauvres comme des franciscains. Hein, je vous rappelle que saint François de Sales, le grand maître de l'équilibre, de la justesse, de la mesure, il dit que ce serait complètement stupide qu'un couple marié avec des enfants veuille être pauvre comme un franciscain. Hein, chaque vocation a ses grâces propres. Donc ce serait une faute même que des parents veuillent être pauvres comme des franciscains. Il dit que ce serait complètement idiot et stupide qu'un évêque veuille être en silence tout le temps comme un chartreux. Vous voyez, il y a chaque vocation a ses grâces. Donc vous n'êtes pas appelé à être pauvre comme saint François, mais vous devez aussi faire un chemin, sans doute quand même, de détachement, hein, et d'une certaine purification par rapport au bien matériel. Vous voyez, un esprit de détachement. Bien sûr que les possessions sont bonnes. Hein, pour une famille, il faut avoir une maison, une voiture, il faut pouvoir payer des écoles, bien sûr. On gagne sa vie, c'est très bien. Mais attention, le piège, parce que le PSP, le P, bah, y a une pente glissante. Hein, et si on fait pas gaffe, on va s'attacher aux choses, même si on n'a pas beaucoup, forcément. Hein. Vous voyez, la pauvreté, c'est pas simplement une quantité de possession, c'est surtout le cœur. Comment est mon cœur par rapport à ce que je possède? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis détaché? Ou est-ce que ça me angoisse, ça m'inquiète, au point que j'ai plus trop confiance en Dieu, quoi. Hein, donc on est appelé à avoir un détachement, vraiment, hein. Une certaine simplicité de vie aussi, hein, avec ce qui est nécessaire pour la vie, bien sûr, des enfants qui soient habillés, qui puissent aller à l'école, qui puissent être nourris, évidemment, tout ça. Mais après, attention. Vous savez, quand j'étais chez les franciscains, j'ai trouvé ça très beau. Parce que ça arrive même chez les religieux, hein, de petit à petit de se laisser avoir par le paix. Et on reste humain, hein. Et alors, ils avaient inventé, je trouve ça génial, tous les trimestres, donc tous les 3 mois, réunion de la maison, poverty check. Et on fait le tour de la maison et on dit, ah ben non, mais ça, non, pas besoin, parce qu'il y a des gens qui donnent. Hein. Ah non, ça, et tous les 3 mois, quelques cartons, et on redonne. Vous voyez, trop bien, parce qu'ils savent, ils sont humbles, ils savent très bien qu'ils sont hommes et que Ouais, accumulation, ça peut arriver même chez les Franciscains. Alors, pourtant, ils étaient assez radicaux, hein. On dormait par terre, hein. Il n'y avait pas de lit. À la dure, j'ai eu mal au dos. J'avoue. Mais Dieu donne la grâce, hein. S'il appelle, il donne la grâce. Hein, donc, détachement. Jésus est pauvre. Je dois avoir un détachement par rapport au bien matériel. Hein. Légitimité de la propriété, d'avoir une décence de vie, évidemment, hein. Mais mon cœur, détaché, détaché. Libre. Si le Seigneur nous appelle à ça, c'est pas pour nous enquiquiner et nous priver. C'est que les biens matériels, petit à petit, quand on les accumule et qu'ils prennent notre cœur, ça pourrit la vie. Ça pourrit la vie. Hein, donc voilà, première vertu à méditer près de Jésus au Saint-Sacrement, la pauvreté. On est appelé, hein, tous les catholiques, à une certaine simplicité. Et en tout cas, un détachement intérieur. Deuxième point, ça sera le plus développé, chers amis. La chasteté. Parce que je vous rappelle, frères et sœurs, que vous aussi, vous ne faites pas de vœux de chasteté, mais vous êtes appelés à être chastes dans la conjugalité ou dans votre état de célibat, si vous êtes célibataire. Hein, la chasteté conjugale. C'est quoi? C'est la continence périodique. Je vais un peu approfondir le thème. Il y a une chasteté, il y a un combat contre la luxure pour le couple, pour que les unions soient pures. Chaste, à l'image du corps sacré de Jésus, de l'Eucharistie qui se donne. La chasteté conjugale, c'est le don de soi. Tout, sans retenue. C'est pas l'utilisation de l'autre. Hein, et on a un cœur qui est malade. Hein. Si on est honnête, on est tous avec cette pente savonneuse de PSP. Et le S, il est savonneux aussi pour le couple. Hein, la luxure ne disparaît pas de notre cœur, la tentation, le jour du sacrement de mariage. Hein, et le prêtre ne devient pas saint par l'ordination, malheureusement. Malheureusement. Le lendemain de mon ordination, ma maman est venue dans ma chambre et elle a dit, mon fils, tu es sûr d'avoir reçu le sacrement de l'ordre? C'était le foutoir. Eh oui, c'est pas sain d'un coup. Et ben c'est pareil pour vous, chers amis, hein. Votre union conjugale, elle est forcément de temps en temps à purifier. Il y a un combat, hein, pour la communion véritable que le Seigneur attend de vous, pour la sainteté du couple. Et ça commence dans le lit conjugal. La sainteté, c'est là que ça se joue d'abord. Et après, ça va rayonner sur tout le reste. Alors la puissance de l'Eucharistie, vous voyez, quand vous approchez du corps du Christ chaste, il n'y a pas plus chaste que Jésus. Une pureté, mais ah, on n'a pas idée. On s'approche, et ben on va être chastifié. Je ne sais pas si ça existe en français, mais il va nous rendre petit à petit chaste. Il va purifier notre regard, les mouvements déréglés petit à petit. Je vous le confirme, parce que moi ils étaient très forts, hein. Et puis j'y allais bien, petit à petit, petit à petit. Et ça change. Je peux plus regarder les choses moches. Vous voyez, mes images, mes idées, ça ne veut pas dire que ça disparaît complètement. Il y a toujours un combat. Il peut y avoir des chutes, mais ça change tout. Et seule la puissance de Dieu peut le faire, frères et sœurs. Vous l'êtes chaste tout seul avec votre effort de volonté? Échec assuré. La grâce est absolument nécessaire. Toujours Aymar, c'est l'Eucharistie qui donne ce vin délicieux qui rend promptement pur et vierge les âmes qui jusque-là étaient esclaves de la concupiscence, de la luxure. Et c'est ce pain des forts, ce froment des élus qui donne à l'enfant la vertu de l'âge mûr, au jeune soldat chrétien la victoire, au confesseur le triomphe du martyre. Le monde impie, sensuel, incrédule ne croit pas à la chasteté chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à la divinité de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, c'est impossible. Donc si on n'a pas la foi, eh ben, c'est normal que les païens, les athées, ne croient pas que ce soit possible. Quand les gens et les jeunes, quand je fais les enseignements dans les lycées, ils n'y croient pas. C'est pas possible, mon père, de vivre tout seul, de ne pas avoir de vie sexuelle. C'est pas possible. En un sens, ils ont raison. Et donc la chasteté, toutes sortes de chasteté, la mienne, mais la vôtre aussi, conjugale, impossible sans la grâce. Impossible. Les 10 commandements sans la grâce, impossible. Le monde impie, donc, le monde païen, n'a pas bu à ce calice céleste qui fait germer la virginité, la pureté. Il ne croit pas à la grâce, au pardon généreux de Jésus, parce qu'il n'a pas reçu le Dieu de charité dans la communion. Le monde croit que le fidèle catholique est triste et malheureux. Parce que vous savez, de l'extérieur, oh là là, vous êtes coinsos dans ce domaine, vous ne devez pas être très heureux. C'est l'inverse. Donc le monde croit que le fidèle est triste et malheureux. Ah, s'il savait la paix immense, la joie céleste, la consolation divine, le bonheur qui accompagne, qui suit la Sainte Communion. S'il savait combien Jésus-Christ est bon, suave au banquet eucharistique, le monde laisserait tous les plaisirs, vides et trompeurs. Il mépriserait toute cette fausse gloire et viendrait demander à Jésus Eucharistie, cette eau vive, ce pain du ciel qui préserve de la mort éternelle. Quelle merveille. Jésus va purifier mon cœur par la Sainte Eucharistie et la confession. Hein, les deux vont toujours ensemble, chers amis. Hein, je me confesse toutes les semaines. Hein. Vous êtes invités à vous confesser, pas une fois par an. Hein. C'est le minimum vital dans le droit canon. Mais on vous encourage tous les mois, et voire plus s'il y a besoin. S'il y a une faute grave, même si c'était une semaine que vous êtes confessé, paf, on va se confesser d'abord avant d'aller communier. Vous savez que le texte de Paul VI, hein, Humane Vitae, sur cette chasteté conjugale, eh bien, il parle du service de la vie affective et sexuelle du couple, comme d'un ministère. Comme le ministère sacerdotal. Moi, j'ai un ministère. Munus en latin. Munera au pluriel. Moi, j'en ai trois. Enseigner, sanctifier et gouverner. Eh bien, vous, les couples mariés, votre munus, c'est le même mot que ministère sacerdotal. Le munus, pour vous, c'est quoi? Le service de la vie. La vie affective, sexuelle, la famille, le service de la vie. C'est un ministère. Dieu vous confie un ministère. Comme le prêtre, il a un ministère. C'est quelque chose de sacré. C'est une mission qui vient d'en haut. C'est merveilleux. Et donc, il va donner la grâce. Hein. Quand Dieu donne une mission, il donne la grâce. Encore faut-il aller la chercher. À recevoir. Mère Teresa disait « Pas de sainteté sans chasteté. Impossible d'être saint si on n'est pas chaste. La luxure est profondément destructrice, je l'ai expérimenté. Ça détruit notre être. » Alors messieurs, je vais vous challenger un peu. Bon, il y en a qui regrettent d'être venus là. Rassurez-vous mesdames, vous allez en prendre pour votre grade aussi un peu, mais un peu moins. C'est Jean-Paul II, voilà, c'est mon héros, surtout dans ce domaine, il est extraordinaire. C'est avec ce qui se passe dans le monde, la révolution sexuelle, le Seigneur a préparé un instrument incroyable, hein, la théologie du corps. Vous savez qu'il a écrit la théologie du corps, c'est merveilleux, alors c'est dur d'accès, hein, ça n'a pas encore touché trop assez de monde, hein, c'est dur. Moi j'essaye, hein, mais je vois qu'il y a de la résistance, c'est un combat, c'est dur, mais c'est prodigieusement beau et ça va profondément renouveler les couples, les familles. Mais on n'y est pas encore, alors on est au balbutiement, il y a du combat, de la résistance. Il raconte, Jean-Paul II, qu'il a écrit ça. Et c'est un pavé, hein, c'est énorme, c'est une profondeur abyssale. Il dit, moi j'ai écrit ça pour défendre Humane Vitae. Pour défendre Humane Vitae. Le texte de Paul VI que personne n'a reçu dans l'Église. Personne. Si, tout petit troupeau, tout petit reste du troupeau, évidemment, toujours. Hein, et Jean-Paul II en tête, qui s'est fait critiquer pour la défense de la vie, mais c'est lié à Humane Vitae, hein, à croire. Voilà ce qu'il dit pour la communion conjugale, qui passe par l'union charnelle. Hein. Il dit, dès l'origine, l'homme masculin aurait dû être le gardien de la réciprocité du don et de son équilibre authentique. L'analyse des textes de la Genèse, hein, c'est à partir de la Genèse qui fait ça, révèle la responsabilité de l'homme dans l'accueil de la féminité comme don. La femme veut se donner, l'homme doit l'accueillir, il ne doit pas la prendre. Accueillir la femme comme don. Et en l'accueillant comme don, la transformation de tout cela en un échange mutuel, bilatéral. Bien que le maintien de l'équilibre du don, parce que chacun est appelé à se donner, l'homme se donne, la femme se donne, bien que le maintien de l'équilibre du don soit confié aux deux, évidemment, hein, il dit quand même, Jean-Paul II, c'est surtout à l'homme qu'incombe une responsabilité particulière, comme s'il dépendait beaucoup plus de lui que l'équilibre soit maintenu ou rompu, et même s'il a été déjà rompu, qu'il soit éventuellement rétabli. Premier de cordée, initiative. L'homme, c'est ça, c'est son rôle. Initiative, leader. J'emmène, je suis le pasteur, je guide. Et donc j'ai aussi une initiative dans la communion conjugale. Hein, les deux, bien sûr, mais ça penche un peu du côté de l'homme quand même. Jean-Paul II qui dit ça. Et donc après il dit, c'est pourquoi tout homme masculin doit considérer en lui-même si celle qui lui est confiée comme une sœur dans la même humanité n'est pas devenue dans son cœur un objet d'adultère. Sa propre femme. Hein. Jean-Paul II va dire qu'on peut faire un adultère avec sa propre femme quand on la traite comme un objet. Donc, comme une sœur dans la même humanité, son épouse n'est pas devenue dans son cœur un objet d'adultère, n'est pas devenue pour lui un objet de jouissance, un objet d'exploitation. Il doit vérifier ça dans son cœur. Et pas ça peut arriver, frères et sœurs. Alors j'ai dit, mesdames, ne vous emballez pas. Parce qu'il y en a qui se disent, ah, vivement ce soir, que je puisse y dire deux, trois trucs, peut-être. Hein, voilà ce qu'il dit Jean-Paul II. Si cet élan, ce désordre un peu, vous voyez, de la concupiscence, de la luxure, prévaut peut-être de la part de l'homme, les convoitises qui portent les femmes vers lui peuvent assumer un caractère analogue. Et peut-être parfois devance-t-il le désir déréglé de l'homme, ou même tendent à le susciter et à lui donner une impulsion. Ouh là là. C'est tellement vrai ce qu'il dit. Alors comment savoir, frères et sœurs, si j'utilise l'autre? Comment savoir si je suis dans le don, comme Dieu le veut, authentique, qui sert la communion, ou est-ce que je suis tombé dans le S? Comment savoir? Ah ben là, je vais mettre les pieds dans le plat. D'abord un pied et ensuite un deuxième. Partez pas. Premier pied dans le plat, eh bien, j'utilise l'autre, je cesse d'avoir un acte d'amour, de communion, quand je suis dans la contraception. Saint Jean-Paul II va très loin et dit que ça cesse d'être un acte d'amour. Ce n'est plus de l'amour. C'est un acte de luxure. Alors rassurez-vous, à tout péché, miséricorde, le Seigneur sait la faiblesse de nos cœurs. Il est venu pour sauver, guérir. Mais ce n'est plus de l'amour. On se blesse, on s'utilise l'un l'autre. C'est une falsification du langage du corps, dit Jean-Paul II. Dans Familiaris Consortio, numéro 11, si ma mémoire est bonne, lorsque les époux, en recourant à la contraception, séparent ces deux significations, union et procréation, que Dieu créateur a inscrites dans l'être humain, de l'homme et de la femme, comme dans le dynamisme de leur communion sexuelle, ils se comportent en arbitre du dessein de Dieu. Ils manipulent et avilissent la sexualité humaine, et avec elle leur propre personne et celle du conjoint, en altérant la valeur de leur donation totale. Ce n'est plus le don. Et aimer, c'est tout donner, disait la petite Thérèse. Aimer, c'est se donner. Ainsi, au langage qui exprime la donation réciproque, que devrait être l'acte authentiquement charitable selon Dieu, la contraception oppose un langage contradictoire selon lequel il ne s'agit plus de se donner totalement à l'autre. Il en découle non seulement le refus de l'ouverture à la vie, mais aussi une falsification de la vérité intérieure de l'amour conjugal, appelé être un don. Parce que Dieu a uni les deux, union et procréation. On ne peut pas les séparer. C'est ontologiquement uni, c'est pas moralement uni, c'est ontologiquement uni, métaphysiquement, anthropologiquement. C'est unitivement procréatif ou procréativement unitif. Et donc si on touche à l'un, on touche à l'autre. Donc si on touche à la procréation, la vie, eh ben on touche à l'union aussi, qui est falsifiée. Ça peut paraître extérieurement pas comme ça. Ça peut ressembler à un véritable don, mais ça ne l'est pas. image analogue pour faire comprendre. Quelqu'un vient vous faire un gros hug et manifester de la sympathie, de l'amitié, et en fait, par derrière, il va vous piquer votre portefeuille. L'acte, vous voyez, apparaît comme un acte charitable, mais en fait, l'intention pervertit tout. C'est plus de l'amour. Donc, première raison pourquoi l'Église, depuis toujours, enseigne ça, et malheureusement, c'est pas reçu, hein. Je sais que peut-être je mets la pied dans la fourmilière, hein, mais c'est mon boulot. Le Seigneur me demandera compte de ce que j'ai fait de mon sacerdoce et de l'enseignement de la vérité. Je vais être jugé, hein, et on va pas automatiquement au ciel non plus, nous, hein. Mais aujourd'hui, on pense tous comme Michel Polnareff. On ira tous en bas. Ben non. Donc, premier élément, on blesse la personne, le conjoint. On manque à sa dignité. Et on se laisse entraîner par la luxure. Mais c'est pas que le conjoint qui est touché, c'est aussi Dieu directement. Pourquoi ? Toujours Jean-Paul II. Quelle merveille. Il a écrit tellement, mais c'est prodigieux. Voilà ce qu'il dit. À l'origine de toute personne humaine, il y a un acte créateur de Dieu. Aucun homme ne vient à l'existence par hasard. Il est toujours l'objet de l'amour créateur de Dieu, avant l'amour des époux. De cette vérité fondamentale de la foi, il découle que la capacité de procréation inscrite dans la sexualité humaine est, dans sa vérité la plus profonde, une coopération avec la puissance créatrice de Dieu. Vous n'êtes pas au centre. C'est Dieu qui est au centre. Procréation. Création avec. Mais le créateur principal, c'est pas nous. C'est le bon Dieu. Vous savez que vous créez pas l'âme, hein, quand vous avez un petit enfant qui arrive. Vous vous donnez le corps. Mais pas l'âme. Elle vient pas du tout de vous, l'âme, hein. C'est une création ex nihilo de Dieu. Et il infuse l'âme. Immédiatement, ça veut dire sans médiation. Lui directement. Il est là. Il est là. On ne peut pas le revoir promener. Il est là. C'est lui la source de tout. Il s'ensuit donc que l'homme et la femme ne sont pas les arbitres, les maîtres de cette même capacité procréatrice, parce qu'ils sont appelés par elle à participer à la décision créatrice de Dieu. Lorsque donc, par la contraception, les époux retirent à l'exercice de leur sexualité conjugale sa capacité potentielle de création, il s'arroge un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul, celui de décider en dernière instance de la venue à l'existence d'une personne humaine. Ils assument la qualification non pas de coopérateur de la puissance créatrice de Dieu, mais de dépositaire ultime de la source de la vie humaine. Et dans cette perspective, la contraception doit être jugée profondément et objectivement illégale. Elle ne peut jamais être justifiée. Penser ou dire le contraire, c'est équivaut à soutenir que dans la vie humaine peuvent se présenter des situations dans lesquelles il est licite de ne pas reconnaître Dieu comme Dieu. Alors, certains disent, mais mon père, ça c'est un bel idéal, mais vous n'êtes pas sur la terre là, c'est trop dur. Ben Jean-Paul II, il répond à toutes ces objections. Oui, c'est dur, hein. Chasteté, c'est dur pour tout le monde, c'est dur aussi pour les couples. Et c'est pas grave, il y a la miséricorde, hein. C'est vrai que c'est ultra exigeant, hein. C'est une conversion qui est demandée par le Seigneur, une vraie conversion. C'est un appel. C'est dur, il y a du renoncement, il y a la croix. Mais on va pas au ciel sans passer par la croix, hein. Il y a un renoncement, on sait que c'est dur, mais la miséricorde est mise encore plus haut que l'exigence. C'est le Seigneur, il sait bien qu'on est faible et qu'on peut tomber. Hein, donc, n'ayons jamais peur d'aller chercher la miséricorde. Hein. Le Seigneur la donnera toujours. Sincèrement. Si on regrette et qu'on essaye de vivre ce que lui veut qu'on vive. Parce qu'en fait, il nous a sauvés, Jésus, hein. Et il a fait une œuvre de rédemption. Il est capable de nous libérer de la concupiscence, de la luxure. C'est un long chemin, hein, de conversion, mais il peut le faire. Il est capable. Voilà encore ce que dit Jean-Paul II. Ce serait une erreur très grave de conclure, parce que c'est vrai que c'est exigeant, hein, que la norme enseignée par l'Église est en elle-même seulement un idéal qui doit être ensuite adapté, proportionné, comme on dit, aux possibilités concrètes de l'homme. Mais quelles sont les possibilités concrètes de l'homme ? De quel homme parle-t-on, dit Jean-Paul II ? De l'homme qui est dominé par la concupiscence, par la luxure, ou de l'homme sauvé par le Christ ? Parce qu'il s'agit de cela. de la réalité de la rédemption du Christ. Le Christ nous a sauvés. Il nous a donné la possibilité de réaliser l'entière vérité de notre être. Il a libéré notre liberté de la domination, de la concupiscence. Dieu a fait quelque chose. Mais on doit combattre aussi. Et ça, souvent, on n'a pas trop envie. On refuse ce combat, cette mortification, ce renoncement à ces désirs désordonnés, à cette pulsion désordonnée. Et pourtant, le Seigneur nous y appelle, frères et sœurs. Et il donnera la grâce. Si vous avez la bonne volonté, il donnera la grâce. Alors, deuxième pied dans le plat, c'est un péché qui nécessite la confession pour aller communier. C'est un péché mortel. J'ai refait toute l'histoire du dogme là-dessus, la tradition. Unanime. C'est un péché grave. Il faut se confesser pour pouvoir communier, sinon on n'est pas en état de grâce. Et on mange sa condamnation, comme disait saint Paul. Je sais qu'il n'y a jamais personne qui dit ça, enfin je crois. Hein. Je me sens souvent seul. Non, j'ai Jean-Paul II avec moi, alors je suis tranquille. Je suis tranquille. Mais c'est pour le bien, hein, je vous rappelle, frères et sœurs. Ce que le Seigneur nous demande, c'est pas pour nous empêcher de tourner en rond et empêcher qu'on soit heureux, c'est pour notre bien. C'est pour le plein déploiement de notre humanité, pour notre sainteté. Alors certains disent, oui, mais moi je savais pas, il y en a plein qui savent pas, donc ça peut pas être un péché mortel. Il y a du vrai là-dedans. Je vous rappelle que pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait la matière grave, là nous l'avons, mais il faut qu'on sache que c'est grave et qu'on le décide quand même. Alors vous allez me dire, oui, parfois ça peut arriver ça, mais je voudrais mesurer ça, contrebalancer ça aussi un peu. Avec un beau texte de Ratzinger, Benoît XVI, sur le mystère de la conscience. Hein, parce qu'on va dire, ah ben ils ne savaient pas, donc il n'y a pas de péché. Ils sont justifiés. Ça peut arriver. Ignorance invincible, on appelle ça. Une ignorance que j'ai fait de mon mieux pour savoir. Ah oui, il faut faire quand même son mieux pour savoir. Mais je ne savais pas. Je n'ai pas rencontré de prêtre, on ne m'a pas expliqué, ou même des mauvais prêtres m'ont dit le contraire. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais entendu le discours. Donc peut-être que je suis dans cette erreur invincible. Et là, je suis excusé, ça ne veut pas dire que c'était bien. Il faut que je change. Mais ma culpabilité est peut-être diminuée, voire absente. Mais, voilà ce que dit Ratzinger, le fait subjectif d'être fermement convaincu, ainsi que l'absence de doute, de scrupule, qui en résulte, ne justifie pas l'homme. Le fait de ne plus voir sa faute, la conscience qui se tait dans des domaines si nombreux, sont des atteintes plus dangereuses à la santé de l'âme que la faute, du moins lorsque celle-ci est reconnue comme telle. Celui qui ne remarque plus qu'il y a péché mortel est tombé plus bas que celui qui reconnaît l'infamie de son acte, car il est plus éloigné de la vérité et donc de la conversion. Et c'est la parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien ne sait plus qu'il est aussi pécheur qu'il a péché. Il est totalement en règle avec sa conscience. Mais ça ne le justifie pas. Rappelez-vous ce que dit Jésus ? Il n'est pas justifié, c'est l'autre qui va être justifié, sauvé. Donc il est en règle avec sa conscience, mais ce mutisme de la conscience le rend impénétrable pour Dieu, alors que le cri de la conscience qui agite le publicain le rend disponible à la vérité et à l'amour. Ainsi, Jésus peut agir chez les pécheurs parce qu'ils ne sont pas dissimulés derrière le paravent de leur conscience faussée, mais sont disponibles pour la conversion que Dieu attend d'eux. Et c'est pourquoi chez les justes, ceux qui se disent justes, ceux qui se justifient, Jésus ne peut pas agir, car ils n'ont pas le désir d'être pardonnés ou de se convertir. Leur conscience ne les accuse plus, mais au contraire les justifie. Et Ratzinger rappelle, donc c'est un très beau texte pour ceux qui veulent creuser, c'est une merveille de texte, ça s'appelle « Conscience et vérité », c'est gratuit sur Internet. « Conscience et vérité », c'est le mystère de la conscience, parce qu'on dit tout un tas de choses sur la conscience qui sont fausses. Voilà ce qu'il dit dans un autre passage de ce même article, Conscience et vérité. L'homme peut voir la vérité de Dieu en raison de sa qualité de créature. Ne pas le voir peut être une faute. Elle n'est pas vue car elle n'est pas voulue. Ce refus de la volonté qui fait obstacle à la reconnaissance est une faute. Si la lampe témoin ne s'allume pas, c'est que vraisemblablement nous refusons d'apercevoir ce que nous n'aimons pas voir. Ça calme, hein? Et pourtant, c'est la lumière des saints pour nous éclairer, pour nous en libérer, c'est pas pour condamner, c'est pas pour accuser, c'est précisément pour libérer du péché et pour que la sainteté puisse se déployer. Alors il y a des fruits incroyables si on suit cet enseignement exigeant avec la grâce et la miséricorde. Il y a des fruits incroyables. Avec vos enfants, vous verrez, vous aurez beaucoup plus d'influence. C'est ce que dit encore Jean-Paul II. Cette maîtrise de soi, cette autodiscipline apporte à la vie de famille des fruits abondants de tranquillité et de paix. Vous voulez la paix dans le couple, dans le foyer? Soyez chaste. Il aide à résoudre les difficultés d'autre type. Il favorise chez le mari et la femme la prévenance, la considération aimante l'un pour l'autre. Elle les aide à repousser l'amour propre excessif, qui est le contraire de la charité. Elle éveille en eux la conscience de leur responsabilité. Et enfin, écoutez bien, Saint Jean-Paul II, chasteté conjugale, elle confère aux parents une influence plus profonde et plus efficace dans l'éducation de leurs enfants. Ben oui, parce que si on est saint, eh ben ça rejaillit sur les autres. Alors il faut prendre ce chemin, frères et sœurs. C'est un appel à la conversion du Seigneur. Même si on tombe, hein, je sais qu'on tombe, rassurez-vous, on tombe, il y a la miséricorde. Il y a la miséricorde. Mais il faut prendre le chemin, parce que sinon on n'arrivera pas au ciel. Saint Thomas d'Aquin, marche donc sur le chemin, car il vaut mieux boiter sur le chemin, tomber de temps en temps, que de marcher à grands pas en dehors du chemin. Car celui qui boite sur le chemin, qui tombe sur le chemin, même s'il n'avance pas très vite, se rapproche du terme. Mais celui qui marche en dehors du chemin, plus il court, plus il s'éloigne du terme. Alors n'ayons pas peur de notre pauvreté, approchons-nous de Jésus, Eucharistie, de Jésus miséricordieux. Et je termine avec la troisième vertu, l'obéissance, qui va faire le lien avec cette deuxième. Hein. Jésus est obéissant de manière incroyable dans l'Eucharistie. Il a d'abord obéi à son Père, dans sa vie terrestre, parfaite obéissance, parfaite. Et donc l'obéissance, dit Aimard, est la vertu divine qui produit et féconde toutes les autres vertus. Elle est étonnante, cette obéissance de Jésus eucharistique. Il obéit spontanément et absolument à tout prêtre qui l'appelle sous les saintes espèces. Vous voyez, Jésus, il m'obéit. Je dis la messe, il m'obéit, viens. Toujours. Même si je suis en état de péché mortel. Jamais été un célébrant la messe, je vous rassure. Que Dieu m'en préserve. Mais il y a des prêtres qui célèbrent la messe, ils ne devraient pas. Hein. Ils devraient se confesser d'abord. Hein. Même quand le prêtre est mort spirituellement, Jésus vient. Dans les mains sales, du coup, d'une certaine manière. Hein. Cœur sale du prêtre. Il vient, il obéit. Il va jusqu'à obéir jusqu'à ses ennemis, à se livrer entre leurs mains. Bah oui, il y a des gens qui veulent faire du mal à l'Eucharistie, qui en font. N'ayant d'autre vengeance que sa patience, sa douceur et sa bonté. Quelle obéissance! Alors, frères et sœurs, nous, obéissance. Obéissance justement à l'Église, à son enseignement, à la vérité. Je rappelle qu'elle est infaillible en matière de foi et de mœurs. Infaillible. Parce qu'elle est assistée de l'Esprit Saint pour nous conduire tous au ciel, qui est l'achèvement parfait de la sainteté qui commence ici-bas. Amen.